finis et s'étendent les grands prés marécages. Pas un seul oiseau ne chante sur ces arbres secs et creux. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher.
Plus de 5 millions de Juifs de toute l'Europe ont été exterminés selon un plan organisé par les nazis entre 1933, date d'arrivée au pouvoir d'Hitler en Allemagne et la libération des camps en 1945.
3 millions d'entre eux sont morts dans les camps d'extermination, 1 million à Auschwitz. En Pologne, 90% de la population juive, soit 3 millions de personnes, ont été assassinées. En France, 25% de la population de confession juive, soit 75 000 personnes, dont 11 000 enfants, et cela avec la participation active du régime de Vichy.
Auschwitz-Birkenau tient une place centrale dans le dispositif de la solution finale organisée par les nazis à la conférence de Wannsee le 20 janvier 1942. 11 millions de juifs d'Europe doivent être exterminés.
1 300 000 déportés seront conduits à Auschwitz. 900 000 ne seront jamais enregistrés et conduits directement dans les chambres à gaz. Sur les 400 000 enregistrés au camp et détenus, la moitié d'entre eux mourront avant la libération. L'énumération des chiffres fait frémir.
Cependant, elle ne peut suffire. Elle informe sur l'ampleur de la Shoah mais n'explique pas. Or, il nous apparaît capital d'apporter deux autres regards.
D'abord, celui qui analyse les causes, les circonstances, les volontés politiques et les immondes théories racistes et antisémites à la base de cette extermination, idéologiquement, politiquement et industriellement planifiée.
Ensuite, celui qui cherche à mettre un visage, une identité, une vie, une histoire sur chacune des victimes. Hommes, femmes, enfants.
C'est avec ce regard-là que nous avons choisi de vous proposer sur Fréquence Sillée une nouvelle série d'émissions sur la Shoah. On y parlera des enfants, de l'expression par le roman ou le cinéma et de l'entreprise de déshumanisation.
Nous sommes lycéens de première L et terminale L au lycée Paul Scarron.
Aujourd'hui, le cinéma et la Shoah.
De nombreux réalisateurs de cinéma ont abordé sur les modes très diversifiés la Shoah. Rien que dans les derniers mois, des films comme La Rafle, Elle s'appelait Sarah ou Inglourious Basterds ont connu de beaux succès en salle.
Le Mémorial de la Shoah à Paris a présenté cette année une exposition mettant en valeur, à travers les affiches, cette production estimée à plus de 200 films inventoriés.
Nous avons pu découvrir la diversité de la production à travers les périodes, les pays, les formes de traitement, les moments mis en image depuis les premières persécutions jusqu'aux enquêtes menées aujourd'hui et l'évocation de ces films par rapport au public.
Caroline François, coordinatrice des expositions mémoriales, et Jérôme Aubignat, chargé du fond d'affiches, nous ont accompagnés dans cette découverte et ont bien voulu répondre pour vous à nos questions.
Nous allons donc parler d'images. Alors, on pense a priori à celles des films de fiction. Mais il faut d'abord nous intéresser à celles qui ont été tournées en 1945 et aux films documentaires s'appuyant sur ces archives ou mettant en valeur des témoignages. L'exemple le plus remarquable dans ce genre étant sans doute le Shoah de Lanzmann.
Il y a les images tournées par les Américains et les images tournées par les Soviétiques. Sans rentrer dans un débat est-ouest, mais les images tournées par les Soviétiques ont souvent été des reconstitutions à posteriori, en faisant rejouer aux déportés eux-mêmes certaines scènes, hein, c'est le cas de la libération, entre guillemets, d'Auschwitz, puisque vous savez aussi que la libération d'Auschwitz est une notion qui est de plus en plus remise en question, puisque les Allemands étaient déjà partis et les Russes sont arrivés dans un camp dans lequel il n'y avait déjà plus du tout d'Allemands. Donc là, c'est un vrai problème. Et le vrai problème que ça pose, c'est que souvent ces images ont été réutilisées, pas du tout resitué dans leur contexte. Et là, il y a un vrai problème, puisque effectivement, on vous montre ces images en vous disant, regardez les images de la libération d'Auschwitz, premier problème, et deuxième problème, sans vous expliquer que ce sont des images retournées parfois peu de temps après, avec des gens qui étaient déportés eux-mêmes, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et puis parfois encore pire, c'est-à-dire qu'on réutilise des images tournées dans certains camps sans vous préciser pour montrer à un autre camp, etc. Donc ça, c'est un problème. Sur les images américaines, c'est moins vrai, et elles sont peut-être moins d'ailleurs utilisées, ce qui est un comble d'ailleurs que les images soviétiques. Le problème qu'on a avec ces films, c'est un problème qu'on rencontre aussi avec les photographies. C'est-à-dire que c'est le problème du statut du document iconographique, audiovisuel en général. Avec le texte, avec les archives, il n'y a pas de problème. Ça répond à des codes, c'est utilisé de manière très précise. Dans l'historiographie, il y a une longue expérience par rapport à ces documents. Le problème des images, c'est souvent qu'elles ont été utilisées uniquement comme illustration et rarement étudiées en tant que telles. Alors, peu à peu, il y a une vraie étude de ces documents qui commence à apparaître. Et les images, qu'elles soient photographiques ou animées, sont étudiées en tant que telles par des spécialistes des images. Car ça, c'est le deuxième problème. C'est-à-dire que étudier une image, ça demande d'avoir quelques connaissances sur des connaissances techniques, comment on tourne une image. L'utilisation de telle focale ou de telle autre focale, ça n'est pas neutre. L'utilisation de tel film ou d'un tel autre film, la façon dont la sensibilité elle-même du film peut être importante. On ne pourra pas tourner dans les mêmes conditions. Et tout ça, ça demande des connaissances particulières et techniques. On n'imagine pas quelqu'un étudier un texte ancien en latin sans avoir une connaissance, si ce n'est parfaite du latin, au moins correcte. Et quelqu'un qui se lancerait dans une étude de la Rome antique en se basant sur des textes anciens, mais sur une xème traduction, ça poserait problème et on ne manquerait pas de le montrer. Et c'est valable pour des archives plus récentes. Mais avec l'image, on a pris un certain nombre de libertés et ça a conduit à un certain nombre de dérives. Et je crois qu'effectivement, ces images ont un statut un peu hybride et ne sont pas toujours été utilisées comme elles auraient dû l'être. Et que malheureusement, ça peut porter aussi à conséquence et nourrir le point de vue de gens qui ont un point de vue un peu négationniste sur le sujet.
Il y a aussi la façon dont les Américains, effectivement, ce que Jérôme expliquait, la façon dont les Américains ont filmé en fait ces images. Donc les ça a été filmé de manière très spécifique, c'est-à-dire qu'ils avaient un cahier des charges très important où on leur expliquait ce qu'ils devaient filmer, de quelle manière ils devaient filmer, etc. L'ordre des plans. Faut pas oublier aussi que l'armée américaine n'a filmé que l'ouverture des camps à l'ouest et non pas à l'est. Donc aussi, quand on dit les images de la Shoah, les camps, pour pas rentrer dans des questionnement historique, mais les camps de l'Ouest sont pas proprement, enfin ne reflètent pas à proprement parler la Shoah. Donc utiliser aussi pour des historiens, pour des travaux historiques, utiliser des images des camps en Allemagne ne sont pas, enfin c'est pas une illustration de la Shoah. De la même manière pour les images, les photos, les camps de Bergen-Belsen, de Buchenwald ne sont pas les mêmes images et ne disent pas la même chose que des images d'Auschwitz ou des images de Majdanek ou des images de Belzec par exemple. Donc il y a toutes ces différences entre les deux. Et puis oui, la façon dont les Américains ont vraiment travaillé ces images, c'est-à-dire qu'effectivement elles sont brutes, c'est-à-dire qu'elles ont été tournées vraiment sans... Quand elles sont présentées non montées, mais elles ont été tournées avec un ordre, avec une vocation. Elles étaient faites dans l'idée d'aller au procès de Nuremberg, ou enfin d'aller vers les procès, et donc de filmer des preuves. Donc c'est vrai qu'ils avaient jour après jour des cahiers des charges très très longs, avec un nombre de plans séquences, une façon de filmer du général au particulier, enfin de filmer les nazis, de filmer les prisonniers. Donc c'est des images qui ont été tournées de manière très très cadrée.
Thank you.
le statut du travail de Lanzmann. Je pense sans doute le travail qui rencontre le moins de critiques, hein, et c'est je pense une démarche qui a rencontré l'adhésion de la plupart des survivants et des historiens. Mais je crois effectivement que c'est sans doute l'œuvre aujourd'hui qui est devenue la plus incontournable, la moins contestée. Voilà.
Depuis une vingtaine d'années, les films sur la Shoah sont de plus en plus nombreux et touchent de plus en plus de spectateurs. Les nazis ont tout fait pour empêcher la représentation de leurs crimes, ils ont donc créé des films de propagande. Mais c'est sans compter sur la volonté de dénoncer que des films ont été réalisés dans le but de rétablir la vérité. Des livres montrent comment a été entrepris le génocide de millions de juifs, grâce à des interviews, des témoignages et des autobiographies. La Shoah a donc pu être mise en scène. Les témoins ont permis de retracer l'expérience douloureuse qu'ils ont vécue dans les camps.
Le cinéma apparaît comme un instrument unique pour conditionner les populations à la réalisation du programme nazi. La guerre est un thème important du cinéma nazi dès 1933. Mais une fois que la guerre apparaît, le cinéma doit essentiellement aider les populations à tenir. Il propose donc des divertissements qui font oublier les rigueurs du conflit. Le choc du second conflit mondial provoque des nouvelles réflexions sur le cinéma. Pendant 5 ans, les actualités de cette guerre étaient au cœur du cinéma, mais après celle-ci, un besoin de changement, de renouvellement du spectacle cinématographique a lieu. Il sera basé sur 2 sentiments paradoxaux. Celle de coller des images de guerre, étant des témoignages, et celui de s'évader de cette réalité. Hollywood va donc proposer des œuvres diverses. Les films à gros budget apparaissent, mais plus en plus de films à petit budget apparaissent surtout dans plusieurs pays. Plusieurs films en mémoire de ces événements vont donc apparaître, par exemple avec Le Passager en 1988, Un Secret en 2007, Train de vie en 1998 et La Rafle en 2010.
Sensible. aveuglement. Nous nous sommes tous deux laissés prendre insensiblement. Tous mes rêves m'ont parlé de vous. Nous avons dit des mots tendres et fous, et nous avons vu naître en nous insensiblement. Insensiblement
savoir s'il y avait un cinéma particulier selon les pays de production. Un de ces pays nous paraissait plus intéressant.
Y a-t-il un cinéma allemand sur la Shoah ?
Il y a un cinéma allemand sur la Shoah. Alors il faut bien faire attention, il y a quand même il y a eu un avant et un après la réunion de l'Allemagne. Et donc il faut quand même distinguer l'Allemagne de l'Est de l'Allemagne de l'Ouest, hein, pour la partie plus ancienne. C'est un peu compliqué parce que la partie qui concerne le cinéma d'Allemagne de l'Est, il faut le resituer dans le contexte du bloc de l'Est, hein, avec, et la façon dont le sujet, en dehors du cinéma, a été abordé dans ces pays-là. C'est-à-dire que, évidemment, de l'autre côté du rideau de fer, on ne faisait pas ce qu'on voulait, et a fortiori au cinéma. Donc c'était très compliqué. C'est un problème de censure, des sujets imposés. Il était difficile de faire un film qui aborde le sujet de manière très différente du ton impulsé par les autorités. Donc quand même, très tôt, il y a eu plusieurs époques sur la façon dont les autorités communistes ont abordé le sujet. Mais en tout cas, très tôt, il y a eu un certain nombre de films importants qui ont été produits et tournés en Allemagne, de l'Est, hein, et il y avait sans doute plus de liberté au départ. Après, ça a été plus compliqué, mais il y a eu un vrai cinéma à l'Est qui a abordé le sujet. Jacob le Menteur, Stern, enfin, il y a un certain nombre de sujets, de films comme ça, avec un cinéma, pour le coup, qui n'avait pas les problématiques du cinéma occidental, c'est-à-dire pas cette problématique purement commerciale. Donc un cinéma, on a qualifié plus de cinéma d'auteur, un cinéma pas toujours très facile à regarder, hein. C'est un cinéma qui est très différent du cinéma qu'on a l'habitude de voir. Donc il y a un cinéma spécifique à l'Est. À l'Ouest, c'est un petit peu moins vrai, c'est-à-dire que ça a été un peu plus tardif. Et le thème a été abordé de manière directe qu'assez tardivement. Mais c'est plus le nazisme qui a été abordé, ou la thématique des persécutions. Un film spécifique sur le sujet, c'est moins vrai. Et d'ailleurs, il y a certaines productions qui auraient pu se faire à l'Ouest et qui se sont finalement faites à l'Est et qui abordaient le sujet de manière plus frontale. Il fallait attendre les années 70-80. Alors il y a le cinéma de Fassbinder, avec apparemment un film comme Le Secret de Véronique Havas qui va aborder le sujet. Mais là aussi, c'est une autre manière de traiter le sujet. Ce n'est pas la liste de Schindler du tout. C'est notre approche. C'est plus les dégâts et l'intolérance et la montée des persécutions, pas seulement à l'égard des juifs, mais les conséquences du nazisme. Et ça va être un film comme Le Tambour, par exemple. Mais Le Tambour n'est pas directement un film sur la Shoah, mais on aborde les questions des problèmes posés par le nazisme et l'adhésion au nazisme. Et on traite évidemment du problème des juifs, mais pas directement et uniquement.
Il y a deux films allemands, moi, qui m'ont marqué, c'est L'Ami retrouvé et puis Europa, Europa, qui, pour un public que moi j'ai vu étant ado, et qui est vraiment un film qui m'a marqué, qui est intéressant sur les questionnements, justement, Il y a d'autres films où on parlait du rôle aussi de l'implication des destins personnels, etc. Et c'est vrai que c'est un film qui est bien fait, qui est pour le cinéma allemand, qui est des années début des années 90, et qui est il y a eu l'or aussi de enfin il y a dans les années 90 il y a quand même un avec la réunification un cinéma qui un cinéma allemand qui produit à nouveau beaucoup de choses.
Les formes de cinéma sont très variées. Donc dans un premier temps, il y a le documentaire, comme par exemple le Shoah ou Nuit et brouillard. Donc un documentaire est un assemblage d'archives de pièces historiques afin d'expliquer la vérité, l'histoire après tant d'années. Ça peut être sous la forme d'une suite de photos sur fond musical ou de commentaires d'historiens, mais aussi une suite d'interviews ou de pièces sonores d'époque, entrecoupées par des vidéos d'époque, des photos d'époque ou même des reconstitutions. Il y a aussi les superproductions, par exemple comme La liste de Schindler de Spielberg. Une superproduction est un film conçu avec de gros moyens financiers tels que les films hollywoodiens. Ce sont des films qui reproduisent avec plus ou moins d'exactitude ce qui s'est passé sur la Shoah. Ils sont basés sur des faits réels comme dans La liste de Schindler. La liste a vraiment existé, tout comme le personnage de Monsieur Schindler. Ces films montrent l'horreur mais parfois en moins fort que dans les documentaires. Il y a aussi les comédies, comme Train de vie et La vie est belle, mais ce terme est un peu délicat puisque traiter un tel sujet sous forme de comédie serait un manque de respect envers la mémoire des victimes de la Shoah. Ces films au ton léger ne montrent pas l'horreur comme un documentaire. Nous ne voyons pas le gazage ni les crémations, mais tout est sous-entendu par exemple lors de la sélection dans La vie est belle. Nous voyons les conditions de travail qui sont atténuées par rapport à la réalité. Il y a également une hypothèse sur un dessin animé sur Anne Frank, produit par Walt Disney et le réalisateur David Mamet. Ce film est en préparation sans connaissance immédiate du casting ou encore du tournage.
Avez-vous des avis de personnes déportées sur des films et comment ont-ils réagi ?
Alors oui, on est souvent en contact avec d'anciens déportés et les avis sont souvent assez tranchés. Mais en fait, tout dépend des films, mais c'est vrai que les sorties récentes en salle ont provoqué souvent des débats assez passionnés. Je pense notamment à La vie est belle, qui a créé quelques remous ici, notamment auprès d'anciens déportés ou de personnes très proches des déportés. Je pense que le film a été assez mal perçu. On a assez peu aimé le ton et la façon dont il abordait le sujet. Bon, c'est pas le cas pour tous les films qui traitent du sujet. Il y a des films, je pense, comme La liste de Schindler était peut-être a reçu un accueil peut-être plus consensuel. Maintenant, je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'à la fois le fait qu'il y ait beaucoup de sorties, je crois que les gens sont sensibles. Au fait que le sujet soit abordé régulièrement au cinéma et que le public ait l'occasion d'apprendre des choses sur le sujet et de se confronter au sujet. Quant à la qualité des films, je pense que c'est un autre problème et que ben là, les avis sont assez divergents. Mais c'est vrai que de manière générale, tout ce qui aborde le sujet de la Shoah, je pense ici, et notamment en ce qui concerne les anciens déportés, soulève toujours un problème quant à la qualité du traitement.
Peut-être deux autres films, il y a un genre un petit peu, c'est ce qui avait été dit lors de la rencontre qu'on avait organisée autour de l'exposition. Il y a le train de vie, et Jacob le menteur, la première version qui est celle qu'on vous a montrée en bas et qui ont commencé à aborder la Shoah de manière plus légère et sur un autre. Alors est-ce qu'on peut parler, voilà, on peut pas parler de comédie, mais sur un ton plus léger, et justement ça a posé des problèmes vis-à-vis de la critique de cinéma, etc. Est-ce qu'on peut adopter un ton aussi léger pour parler du sujet? Le Train de vie ou Jacob le menteur sont eux considérés comme des bons films qui ont été enfin quand même beaucoup de succès et dont l'un des deux a eu un remake américain.
Shoah ont été filmés. Le Dictateur, film américain réalisé par Charlie Chaplin pendant la Seconde Guerre mondiale, présente l'histoire entremêlée d'un barbier juif et d'un dictateur. Le début de la discrimination, les premières rafles et persécutions sont montrées à l'écran. Le film récent, La Rafle, montre quant à lui un exemple de rafle durant la guerre. Ici, la rafle du Veldiv où plus de 13 000 juifs ont été détenus dans le vélodrome d'hiver dans des conditions atroces puis déportés à Auschwitz-Birkenau. Le film La Dernière Étape a été réalisé peu après la libération de sa réalisatrice rescapée d'Auschwitz. Elle retrace la déportation des femmes. Durant la guerre, de nombreuses personnes ont aidé à la sauvegarde des juifs. Le journal d'Anne Frank retrace ainsi comment Anne Frank a été cachée en 1942, puis malheureusement, comment elle a été arrêtée et déportée en 1944. Des films sont apparus sur le thème de l'après-guerre sur la chasse des anciens nazis. Il y a eu des films sur des nazis réfugiés, par exemple en Amérique, ou bien sur des enquêtes pour retrouver les traces de déportés, comme par exemple Elle s'appelait Sarah. Le cinéma a aussi pris en compte les survivants. Dans Le choix de Sophie, après la Seconde Guerre mondiale, un jeune écrivain sympathise avec un couple, une immigrante polonaise ayant souffert pendant la guerre, et Nathan, un juif au comportement imprévisible. Y a-t-il un public différent visé selon les périodes ?
Il y a tout un cinéma, c'est pas seulement le cinéma français, il y a tout un cinéma qui est un cinéma, on va dire, à vocation, pour faire très simple, à vocation pédagogique, je dirais. Il y a un cinéma qui surfe sur cette question de devoir de mémoire, de traitement mémoriel. Et est-ce que un film comme La Rafle, comme je le disais, dans l'esprit de la réalisatrice, c'est un film vraiment pour des scolaires, je sais pas, mais ça donne quand même ce côté-là. Alors, est-ce qu'il y a vraiment dresser une typologie des publics et dire tel public est fait plus pour un public de, j'en sais rien, de 17 à 18 ans, plutôt un public d'adultes avertis, pour le sujet, je sais pas. On parlait de Portier de nuit, on va dire que c'est plus pour un public d'adultes avertis. Après, il y a des dessins animés, par exemple, sur le sujet. Le journal d'Anne Frank, il y a une version en film d'animation. C'est un film pour un public jeune. Il y a eu un certain nombre de productions pour la télévision qui étaient à destination d'un public plutôt jeune. Et souvent, quand on utilise l'image d'Anne Frank, par exemple, c'est souvent ciblé pour un public plus jeune. Alors, actuellement, Disney est en train de produire et de réaliser un film sur le journal d'Anne Frank, très Disney. Visiblement, c'est pas facile avec le réalisateur parce que Disney retoque régulièrement les versions parce que c'est trop choquant. Là, clairement, on vise au moins un public familial, mais sans doute un public plutôt jeune. Et puis, il y a des films qui sont dans le cinéma d'auteur. Des films, là, on va avoir le public habituel du cinéma d'auteur, hein, à faire moins d'entrées en salle, mais. On sait pour qui ces films sont tournés, et puis on a un film d'un cinéma plus grand public. Après, c'est une question de dosage, et je crois que souvent les films les plus réussis sont les films qui restent le plus dans la mémoire collective et dans l'histoire du cinéma, sont les films justement qui évitent cet écueil-là et qui arrivent à traiter le sujet de manière pas trop démonstrative et qui peuvent être regardés par le plus grand nombre. Mais ces films sont assez rares. Oui, je pense qu'il y a certains films qui s'adressent à un public particulier, je pense. le cinéma de Tarantino s'adresse pas à tous les publics. Quand Tarantino décide de faire une Glorious Bastards, on se doute bien que ça va pas plaire à tout le monde. Et voilà, donc ça, effectivement, c'est particulier. C'est un traitement particulier, ça s'adresse pas à tout le monde. Un film comme Le Pianiste, non, c'est pas du tout la même chose, mais on a affaire à un cinéaste qui est un cinéaste particulier, qui fait un cinéma bien à lui, et même si ça, c'est un film qui a rencontré un vrai succès, c'est quand même un film très particulier, un film sans concession, mais qui n'est pas non plus trop dur à regarder. Enfin, c'est pas non plus. Il y a des shows, il y a des offres qui sont sans doute plus difficiles à regarder. Mais en même temps, plus difficiles à regarder sur le sujet, c'est pas forcément des choses qui montrent l'horreur de manière directe. Hein. C'est aussi un traitement peut-être plus intellectualisé ou plus sans concession d'un point de vue cinématographique. Pédagogique, est-ce que le cinéma est le meilleur vecteur pour ça? Est-ce qu'il ne faut pas mieux faire un documentaire? Est-ce qu'il ne faut pas mieux réaliser des rencontres ou travailler directement auprès des publics qui sont visés? Parce que finalement, la rafle, on sent que la cible première, ça reste peut-être un public plus lycéen, plus collégien, c'est-à-dire un public plus d'étudiants. Et du coup, je crois qu'il y a une partie du grand public qui ne s'y retrouve pas complètement. Et si on doit vraiment faire des choses qui sont pour un public bien particulier, est-ce que c'est le cinéma de fiction qui est la meilleure façon de procéder? Je ne sais pas, mais en même temps, c'est ça un débat. C'est-à-dire que, par exemple, même la liste de Schindler provoque un débat. Il y a des gens qui n'aiment pas la liste de Schindler, et il y a des gens qui estiment que la seule façon de traiter du sujet, c'est le choix de Lanzmann, et qu'en dehors du choix de Lanzmann, tout est mauvais. Hein. Alors est-ce qu'on doit adopter un point de vue aussi strict, aussi radical? Tout est possible. Enfin, je veux dire que chacun a le droit d'avoir son point de vue, c'est pas si simple. Il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas montrer, qu'on ne peut pas représenter la Shoah du tout dans une œuvre de fiction, que toute œuvre de fiction sur le sujet, c'est mal, c'est pas quelque chose qu'on doit faire. On peut faire une œuvre de documentaire. Le fait que des gens se déplacent dans les salles et soient informés du sujet, apprennent des choses, quand bien même le film n'a pas des qualités cinématographiques extraordinaires, même si le film peut être critiquable sur certains aspects, même historiques, est-ce que c'est pas mieux que de faire des films qui seront vus que par un tout petit public, qui de toute façon sera sans doute un public qui est déjà concerné, déjà au courant? Je pense que les gens qui vont regarder pendant 9 heures Shoah, même s'ils le regardent par petits bouts, je pense que c'est des gens qui souvent ont déjà fait la démarche et connaissent déjà le sujet.
La vocation des films est multiple. Ils ont tout d'abord pour but de toucher, mais aussi d'émouvoir le spectateur pour lui faire comprendre les situations. Mais toucher le spectateur n'est pas le seul but. Ces films servent aussi à dénoncer les choses graves pour mettre le spectateur face à la réalité des choses et de lui faire prendre conscience des conditions atroces dans lesquelles vivent les déportés. Nous pouvons alors dire que les films ont bien évidemment des buts bien précis et déterminés. Ces films retraçant une période difficile de l'histoire sont dédiés à toute personne de tout âge.
Vous aviez à conseiller 5 films différents qui traitent de la Shoah, lesquels ce seraient et que racontent-ils?
Je pense que je vais commencer par La liste de Schindler. Je pense que je ne vais pas le vous raconter parce que tout le monde le connaît. Moi, je pense que c'est un des films qui est justement sur son traitement et sur, à mon sens, c'est un film qui est vraiment intéressant sur la Shoah. Et le fait qu'il soit en noir et blanc, je pense que ça amène aussi quelque chose. Ça permet cette mise à distance. Par rapport au sujet, je vais dire aussi Le Pianiste, parce que voilà, je pense qu'il y a une production américaine et quand même moi je trouve, alors après on n'a pas les mêmes avis, Le Pianiste Les films de Polanski, c'est ce qu'on disait aussi. On a parlé de la qualité de la reconstitution dans les décors et dans les détails du film. Moi, c'est les deux, cinq, je sais pas, c'est les deux qui me viennent, moi, principalement. Je trouve que pour la France, Monsieur Klein est un très bon film aussi, qui pose la question aussi de ce qui s'est passé, du contexte aussi en France, parce qu'effectivement, les productions américaines sont plus larges sur le sujet. Et je trouve qu'il y a des démarches européennes, un cinéma européen qui est assez intéressant. Il y a un très beau film hongrois qui s'appelle Sunshine, qui est très beau aussi, justement, et qui est plutôt une saga sur une famille, notamment d'escrimeurs, de sportifs qui ont été arrêtés. Voilà, moi, c'est des quelques films qui me viennent.
On ne se rend pas bien compte de l'importance de la production. Il y a énormément, énormément de films sur le sujet, beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire, non ? Particulièrement difficile de choisir. Je pense que peut-être qu'il faudrait choisir cinq films différents et qui répondent à des attentes différentes. C'est-à-dire qu'il y a des films qui vont être très grand public, et je crois qu'il en faut. Je crois qu'effectivement, on peut citer la liste de Schindler de ce point de vue-là. Moi, c'est pas le film que je préfère sur le sujet, mais je pense que c'est un film important. C'est un film qui a marqué une étape aussi. Parce que je pense que c'est le premier film qui a abordé de manière frontale le sujet et qui était destiné à un public très large. Je crois que c'est un film qui a malgré tout beaucoup de qualité. On peut reprocher des choses au film. Je pense que ça tient plus à Spielberg et à son point de vue personnel, auquel on n'est pas forcé d'adhérer. Mais je crois que c'est un film qui a touché beaucoup de monde, qui a eu un impact important. Et qui a permis de faire ensuite beaucoup d'autres films sur le sujet. Peut-être les choses auront été moins simples sans celui-ci. Je pense que je suis d'accord avec Caroline. Je pense que moi, j'aime beaucoup Monsieur Klein. C'est peut-être un de mes films préférés sur le sujet. Et là, je pense que c'est intéressant parce que ça permet de voir comment on peut aborder le sujet de manière beaucoup plus subtile. Mais je pense que c'est pas un film qui est à la portée de tous les publics. Je pense que c'est un film très particulier, avec un ton très particulier. C'est un film aussi qui appartient à une certaine histoire du cinéma. Je crois qu'on ne fait plus ce genre de cinéma non plus. Je ne suis pas sûr que Monsieur Klein en salle aujourd'hui remporterait un grand succès. Bon, d'abord, l'avantage du film à l'époque quand il est sorti, c'est qu'il y avait Alain Delon et qu'on pouvait faire un film et avoir un succès sur le seul nom d'Alain Delon. Puis c'était Joseph Losey qui avait quand même qui était un réalisateur important à l'époque. Aujourd'hui, on rencontrerait sans doute pas le même écho auprès du public, mais je pense que c'est un film important. Maintenant, c'est un film qui ne répond pas du tout à la même logique que la liste de Schindler. Moi, je pense qu'Au revoir les enfants est un film intéressant. Je pense que là aussi, c'est un film qui répond à beaucoup de questions et qui peut être vu par un grand nombre de publics différents. Je pense que c'est un film qui a des qualités, qui a des défauts aussi. On peut lui reprocher son côté très mélodramatique, mais je crois que c'est un film intéressant dont il faut exagérer ni les qualités ni les défauts, et je pense qu'il peut être montré notamment à un public plus scolaire, on va dire, et qui est facilement exploitable et qui touche les gens directement aussi. Je pense que c'est important aussi d'avoir même si c'est important de garder une distance par rapport au sujet, je pense aussi que c'est bien, et c'est ce qu'on essaye de nous aussi de faire au Mémorial de Le Choix, de donner une dimension plus humaine au sujet, et de montrer que l'histoire de la Shoah, c'est aussi une juxtaposition d'histoires personnelles, et de que les gens perçoivent le sujet de manière plus physique, comme ça, l'histoire, à travers d'histoires individuelles, c'est intéressant aussi. Je pense que Le Dictateur, même si c'est pas un film sur la Shoah, je pense que c'est un film important. Et là, c'est un film plus ancien, c'est un film qui est abordable, c'est un film, je pense, un film important d'un point de vue cinématographique, en dehors du sujet qui nous intéresse. Je crois que c'est une vraie belle œuvre. C'est intéressant parce que je pense que c'est aussi un cinéma de propagande, mais c'est un cinéma subtil, un cinéma intelligent. Je pense que Chaplin est un homme important, pas seulement dans l'histoire du cinéma, dans l'histoire du XXe siècle, et que l'histoire de Chaplin en dit aussi beaucoup sur l'histoire de ce siècle. Donc, je pense que c'est un film important. Je pense que c'est un film qui pourrait être regardé par le plus grand nombre. Je ne sais pas quel est l'accueil qui lui est réservé auprès d'un public plus jeune. C'est difficile à mesurer, mais je pense que voilà. Je pense que ça, c'est un peu un incontournable. Peut-être Music Box, mais peut-être un film très différent comme Marathon Man. Peut-être il peut montrer comment on peut aborder le sujet de manière complètement différente. C'est un sujet dont le cœur du film n'est pas du tout la Shoah, mais qu'il aborde de manière intelligente. Je pense que c'est un vrai bon thriller. Et ça montre, il y a beaucoup de films comme ça, il y a beaucoup de polars qui sont des vrais bons polars avec une vraie bonne intrigue. Et puis la Shoah est abordée. hein, comme ça pourrait être un autre sujet qui est abordé pour en faire une intrigue. C'est ce qu'on retrouve aussi dans le polar écrit, hein. Il y a un certain nombre de polars sur le sujet qui existent, hein, qui sont des polars comme d'autres, hein, et certains ont été adaptés, certains le seront peut-être.
Peut-on avoir votre avis sur La Rafle et Elle s'appelait Sarah ?
C'est deux films qui sont assez proches dans le temps, qui sont des productions aussi l'une française, l'autre un peu plus internationale, qui traitent un petit peu du même sujet, qui est autour de La Rafle du Vel d'Hiv, et qui traitent le sujet de manière complètement différente. La Rafle, c'est effectivement un film qui est une reconstitution historique, qui joue énormément sur l'émotion, c'est vrai que les scènes centrales au moment tournées, la reconstitution du Vel d'Hiv sont des scènes qui sont effectivement très impressionnantes, qui amènent effectivement aussi l'émotion. Alors elles sont un petit peu moins présentes dans Elle s'appelait Sarah. Moi j'ai trouvé intéressant le film Elle s'appelait Sarah entre les deux, parce que je trouve que c'est un film qui pose plus de questions, je trouve, même pour un public scolaire, qui amène justement à qu'est-ce qu'un devoir de mémoire, comment est-ce qu'on interroge la mémoire. Le personnage dans Elle s'appelait Sarah, c'est une américaine. Alors au début c'est toujours un petit peu compliqué, et surtout pour les Français, c'est toujours un peu compliqué d'avoir un Américain qui vient juger ou nous questionner sur notre passé. Mais bon, parfois, il faut effectivement passer par des vecteurs peut-être un petit peu étrangers pour justement questionner. Moi, je trouve que c'est intéressant aussi ce questionnement dans le film, de cette espèce de quête qu'elle a. Je n'ai pas raconté le film, mais en fait, elle se retrouve dans un appartement où elle apprend qu'en fait, dans cet appartement-là, juste avant la Rafle du Vel d'Hiv, il y avait une famille juive qui était dans cet appartement et qui a été raflée. Et le personnage principal, c'est donc Sarah, c'était la petite fille donc, qui habitait dans cet appartement et dont elle va s'attacher à retracer l'histoire qui devient... ça devient pas obsessionnel chez elle, mais ça devient très important de savoir ce qui s'est passé, puis ce qui est arrivé à cette petite fille, etc. Et c'est vrai qu'elle est mariée avec un Français, et donc il y a toute cette histoire avec d'interroger le ce qui s'est passé et de retracer la grande histoire. Moi, je trouve que dans ce film, dans Elle s'appelait Sarah, les questionnements sont bons, et justement, peut-être plus larges. Effectivement, ça joue sur l'émotion, mais ça joue moins sur l'émotion que La Rafle.
Je crois qu'en dehors de ces deux films, je crois qui n'ont pas toujours reçu un accueil très positif, hein, je crois que ça pose la question de la naissance d'un genre à part entière. C'est-à-dire qu'on se demande s'il n'y a pas un genre film sur la Shoah qui est de plus en plus en train d'exister. Et je crois que ça peut être un problème. Hein. C'est-à-dire que est-ce que ça justifie à part entière un film ? Est-ce que finalement, comme je disais précédemment, est-ce que les meilleures réussites, c'est lorsque le sujet est abordé au travers d'un autre sujet ou en utilisant un genre qui a traité d'autres thèmes que celui-là, et que cette multiplication des films sur le sujet où finalement ça devient un genre à part entière avec ses propres codes, c'est-à-dire quelque chose où effectivement l'émotion rentre en ligne de compte, un cinéma très démonstratif qui se veut très pédagogique, très proche de la réalité, qui surtout ne veut pas prendre de risques, c'est-à-dire que essaie tellement de coller à la réalité, ce qui est en principe juste et tout à fait défendable, mais qui à la fin peut-être finit par scléroser un petit peu la création artistique, donne des œuvres qui sont presque interchangeables les unes avec les autres et qui sans doute crée aussi peut-être un trop plein dans la production. Finalement, est-ce que ça fait pas plus de mal que de bien? Mais c'est compliqué, c'est-à-dire que à contrario, être trop élitiste, est-ce que ça n'est pas un problème aussi? C'est-à-dire que, voilà, maintenant, tout le problème de cinéma, c'est à quoi sert-il exactement? À quoi répond-il exactement? C'est-à-dire, est-ce que faire du cinéma, c'est faire une œuvre de divertissement, ou une œuvre à vocation éducative? Est-ce que, voilà, c'est ça aussi. Mais alors, on a l'impression que ce cinéma-là, il devient plus que ça. Et c'est le reproche qu'on fait à ce genre de film. Et il faut, je pense, dire aussi que un reproche qui a été fait à ces films, c'est d'être des œuvres qui, d'un point de vue cinématographique, n'étaient pas toujours extraordinaires. Et que la qualité n'était pas toujours au rendez-vous. Et qu'au final, il ne reste plus que un mauvais exposé au cinéma. Alors, je ne sais pas si c'est le cas de ces deux films, mais même si c'est les critiques que j'ai entendues. Et à la fin, on ne sait plus très bien. Si ça ne dessert pas finalement la cause que ces films prétendent défendre. Mais d'autres diront, mais si vous faites un cinéma élitiste, sans concession, un cinéma d'auteur, vous aurez peu de monde dans les salles et vous aurez de toute façon un public qui connaît déjà le sujet, qui a déjà fait tout ce travail-là et à qui vous ferez plaisir, mais à qui vous n'apprendrez rien de plus. Donc c'est toute cette difficulté de dosage, je crois que c'est difficile de faire l'adhésion, mais peut-être que finalement l'adhésion du plus grand nombre, mais c'est peut-être les films qui ont réussi à faire qui ont rencontré le succès le plus large et le meilleur succès critique, c'est justement ces films qui ont réussi à trouver le bon dosage, comme Le Pianiste. Je crois que Le Pianiste, de ce point de vue-là, est intéressant. C'est une vraie bonne reconstitution, c'est un film d'auteur d'un certain point de vue, c'est un film qui est regardé par le plus grand nombre. Mais c'est un film intelligent et je pense que c'est un film qui restera dans l'histoire du cinéma, indépendamment de ce sujet-là. Je crois que c'est aussi un critère.
On participait à la réalisation de cette émission Idaline, Aline, Laurine, Mathilde, Noémie, Sarah, lycéenne de Terminale L. Cette série d'émissions consacrée à la Shoah vous est proposée par le lycée Paul Scarron de Ciel Guillaume et Fréquence IE. Elle est soutenue par le Mémorial de la Shoah, la région des Pays de la Loire, le rectorat de l'Académie de Nantes, dans le cadre du volet Éducation à la tolérance et à la paix du programme d'action éducative régionale.